Cette semaine, nous avons eu notre réunion de prière, mardi soir, et le thème c'était la maîtrise de soi. Et en priant, et on s'est aperçu que la maîtrise de soi, c'est un travail certes personnel, on doit se maîtriser soi-même, mais c'est un travail de Dieu en nous. Et plus on laissera Dieu diriger nos vies, plus on arrivera à se maîtriser soi-même, et plus on sera libre. Mais c'est vraiment de dire, je vais réussir par moi-même aussi. Et j'ai voulu partager quelque chose avec vous ce matin, qui est quelque chose qu'on partage souvent dans les assemblées, mais peut-être pas encore assez souvent. Et cette lecture que je voudrais partager avec vous, il y en aura plusieurs, et la première se trouve dans Ésaïe, chapitre 58, versets 7 à 10. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi le malheureux sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors jaillira ta lumière comme l'aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière du midi. À première vue, on peut prendre ce texte comme une belle leçon de morale, et en fait, ce serait déjà pas si mal. Mais il s'agit de bien autre chose. Et dans le contexte, ce texte d'Ésaïe qui a été écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'était après le retour d'exil, le peuple d'Israël qui avait été envoyé en exil à Babylone est revenu. Et il y a encore bien des séquelles dans ce peuple de cette période terrible de dévastation. Un peu plus bas dans le même chapitre, le même prophète parle des dévastations du passé et des ruines à relever. La pratique religieuse qui s'est mise en place à Jérusalem, et d'ailleurs de bonne foi, s'est forcée de plaire à Dieu. Alors, notre prophète ici est chargé de délivrer un message qui est un peu délicat pour le peuple d'Israël. Oui, il dit, vous voulez plaire à Dieu, c'est bien, c'est une affaire entendue, mais seulement voilà, le culte qui plaît à Dieu, ce n'est pas ce que vous croyez. Et le prophète leur adresse des reproches. Un petit peu comme Pierre, comme Paul, Pierre nous rappelait que Paul adresse des reproches à qui? À ceux qui sont forts. Et c'est un petit peu la même chose. Il dit, vous cherchez à faire bien, vous faire bien voir de Dieu en faisant des jeûnes spectaculaires parce que vous voulez vous attirer les bonnes grâces. Mais pendant ce temps-là, vous n'êtes que dispute, querelle, brutalité, à pas du gain. Et voici ce que dit Ésaïe quelques lignes avant, dans les versets qui précèdent. Le jour de votre jeûne, vous savez quand même tomber sur une bonne affaire. Et tous vos gens de peine, vous les brutalisez. Vous jeûnez tout en cherchant querelles et disputes, et en frappant du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas comme il convient, en un jour où vous voulez faire entendre là-haut votre voix. Doit-il être comme cela, le jeûne que je préfère, le jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, d'étaler en litière sac et cendre? Est-ce pour cela que tu proclames un jeûne? Et cela nous vaut l'un des textes les plus percutants de l'Ancien Testament. Et celui-là, on le transfère directement dans le Nouveau. Et c'est peut-être dommage qu'on ne le lit pas assez souvent. Parce que quand même, il bouscule certaines de nos idées sur Dieu et sur la religion. Et nous avons là une réponse à une grande question qu'on se pose quand on veut suivre le Seigneur. Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Et en fait de réponse, eh bien, c'est bien clair. Elle est là, la réponse. En quelques lignes, tout est dit. Et comme toujours, quand un texte est très dense, on peut se dire qu'il a été probablement longuement travaillé dans le cœur d'Ésaïe par le Saint-Esprit, et c'est bien le cas ici. Ces lignes sont l'aboutissement de toute l'œuvre en fait des prophètes. Depuis des siècles en Israël, et pas seulement d'ailleurs, depuis l'exil, depuis Abraham, c'est-à-dire à peu près 1850 ans avant Jésus-Christ, on cherche à faire ce qui plaît à Dieu. Alors on a tout essayé. Les sacrifices humains, d'abord, mais Dieu a tout fait à savoir que non, 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 qu'est-ce que vous faites là? Je suis le Dieu des vivants. Il ne pouvait pas en être question. Alors on a continué à offrir des sacrifices, mais d'animaux seulement. Il y a eu, comme dans toutes les religions, des jeûnes, c'est-à-dire on s'abstient de manger pendant un jour ou deux. Il y a eu des offrandes de toutes sortes. Il y a eu des prières. Et tout le long de ce long développement de la foi d'Israël, les prophètes appelaient le peuple à ne pas se contenter du culte, mais à vivre l'alliance tous les jours, au quotidien. Et c'est bien le sens de ce passage. Le prophète commence par dire, le jeûne que je préfère, ce n'est pas ceci. Dénouer les chaînes de la méchanceté, détacher les liens de la servitude, renvoyer libre ceux qui ployaient les opprimés, bref, que vous mettiez en pièces toutes les chaînes de votre peuple. Et si je comprends bien aux yeux de Dieu, tout geste qui vise à libérer nos frères humains vaut mieux qu'un jeûne le plus courageux, vaut mieux que la prière la plus fervente, vaut mieux que la célébration la plus belle, la plus intense pour notre Seigneur. Puis vient le passage que nous avons devant les yeux, nous propose des gestes de partage, nourrir l'affamé, désaltérer l'assoiffé, recueillir le malheureux sans abri, vêtir celui qui a froid, combler le désir des malheureux. En un mot, secourir toutes les souffrances que nous rencontrons. Quand est-ce que vous l'avez fait pour la dernière fois? Vous propose trois remarques. Premièrement, les gestes de libération, les gestes de partage qu'Ésaïe nous recommande sont tout simplement l'imitation de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et Israël a bien souvent expérimenté le Dieu qu'il a appelé le Dieu libérateur. Dieu, quand il se présente, il dit, je suis le Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Il est aussi le Dieu de compassion, le Dieu miséricordieux. Et ce qui lui est demandé, c'est à l'homme, c'est de faire les mêmes gestes à son tour. Les mêmes gestes que Dieu, parce que nous sommes faits pour être à l'image de Dieu. Alors ça c'est... Oh, qu'est-ce qu'il a? Il fait la leçon de morale là ce matin. Moi j'aime bien les histoires de Toto. Et Toto c'est un petit garçon qui mange très salement. Alors son père s'écrie, mon fils, tu manges comme un goré. Il regarde son fils, continue à manger, il dit, tu sais ce que c'est qu'un goré? Le garçon regarde son père et dit, oui papa, c'est le fils d'un cochon. Nous disions que Dieu, que nous sommes fils de Dieu, c'est ça, hein, on l'a dit ce matin plusieurs fois, nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Quelle image on peut donner de notre Père? Une image moraliste, une image de rigueur, ou alors une image d'amour, une image de miséricorde, une image de grâce. La deuxième remarque, alors on ne s'étonne pas qu'Ésaïe puisse promettre, si tu combles les désirs du malheureux, la gloire du Seigneur t'accompagnera. La gloire du Seigneur, c'est le rayonnement de la présence de Dieu. C'est pas une récompense, hein. C'est pas, tu fais ça, tu auras la récompense, tu auras la gloire du Seigneur. Non, c'est pas une récompense. C'est beaucoup mieux qu'une récompense. C'est une réalité. Une réalité d'être en présence de Dieu. Car réellement, quand nous agissons à la manière de Dieu par des actes qui libèrent nos frères et sœurs humains, qui rassurent, qui encouragent, qui adoucissent les épreuves de toutes sortes, qui relèvent, qui redressent, qui montrent le chemin, alors il nous est donné de refléter un petit peu la lumière de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Et vous avez remarqué l'insistance d'Ésaïe sur la lumière. Alors jaillira ta lumière comme l'aurore. Ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Et on va revoir cet aspect de la lumière à la fin. Bien sûr, il ne s'agit pas de notre lumière, mais de la lumière de Dieu qui vit à travers nous. Et pour le dire autrement, Ésaïe nous dit, quand tu donnes, tu reflètes la présence de Dieu. Et une fois de plus, on peut rappeler cette phrase qui n'appartient pas aux Écritures, mais plutôt à la tradition chrétienne. Là où il y a de l'amour, là est Dieu. Troisièmement, tout acte de justice, tout acte de libération, tout acte de partage, eh ben c'est un pas vers le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est ce que Jésus nous demande de chercher par-dessus tout. Le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, ces choses, pas le manger, le boire, être confortable. Non, pas un travail, de l'argent. Non, c'est chercher dans cette existence le royaume et la justice de Dieu. Et ça, c'est un pas vers le royaume de Dieu. Puisque justement, ce royaume que tout l'Ancien Testament attend, c'est le lieu de la justice et de l'amour de Dieu. Et ça, c'est la justice et l'amour de Dieu. L'évangile, celui des béatitudes, heureux ou bienheureux ce terme grec, Pierre, Marc, Makarios, qui est le même, hein, on l'a vu dans Romains, mais on voit dans les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu, heureux les affligés. Vous connaissez ces paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 5, qu'on a appelé les béatitudes. Eh bien, ces béatitudes nous rappellent qu'il est construit au jour par jour, ce royaume. Et il est construit au jour par jour par des gens qui sont doux, par des gens qui sont purs, par des gens qui sont pacifiques, par des assoiffés de justice et par des gens qui sont pleins de miséricorde. Voilà où nous conduit tous les actes religieux. La confession du nom de Jésus, le baptême, le repas du Seigneur, les prières et nos chants, c'est vers ça que ça nous conduit. Tout cela devrait nous conduire à pratiquer la vraie religion, pure et sans tache. La religion, c'est l'homme qui cherche Dieu. Et Jésus-Christ, c'est Dieu qui cherche l'homme. Donc nous sommes dans notre religion, et la religion, c'est de vouloir être en présence de Dieu. Si nous travaillons là-dessus, nous serons en présence de Dieu. Il nous donnera sa lumière et elle nous éclairera. Et bien sûr, on a besoin de prière, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de se nourrir de sa parole, on a besoin de se nourrir de son corps et son sang, de se remémorer toujours le sacrifice de Jésus, ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est un rappel que nous faisons souvent, mais jamais assez souvent. Il y a une toute nouvelle institutrice qui a envie d'inculquer des notions de psychologie à ses élèves, et donc elle s'adresse à sa classe en ces termes, que celui qui a l'impression d'être stupide par moment se lève. Et quelques dizaines de secondes, il y a mon ami Toto qui se lève. De mauvaise grâce, mais il se lève quand même. Et alors l'institutrice lui demande, mais alors comme ça, Toto, tu penses que de temps en temps, tu peux être stupide? Non, madame, mais ça me faisait de la peine de vous voir debout toute seule. Et si je vous dis ça, c'est parce que je me tiens debout devant vous ce matin. Et comme si je vous rappelais des choses que j'exerçais allègrement dans ma vie de tous les jours et que je vous montrais l'exemple. Non, je me bagarre aussi. Et on se bagarre tous pour essayer d'aller vers le but. Le tout, c'est d'être orienté dans la bonne direction et de marcher dans cette direction-là. Cette vérité-là, elle me tiraille. Toujours, elle me tiraille. Et j'espère qu'elle vous tiraille aussi. Quand je dis toujours, je suis prétentieux parce qu'elle ne me tiraille pas assez encore. Elle devrait me tirailler toujours, m'encourager au bien. Le psaume 112 dit ceci, et j'ai pris quelques versets seulement. Heureux qui craint le Seigneur, lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce du malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant. Il ne craint pas, à pleine main, il donne aux pauvres, à jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Ça, c'est pas nous, hein. Il s'agit de Jésus-Christ qu'il faut faire vivre dans nos vies. Nous disons que Jésus-Christ est vivant et nous le croyons et il est vivant, mes frères et sœurs. Mais il est vivant à travers nous. Nous sommes son corps. Nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, ses yeux, sa bouche. Et on a mangé son corps, on a bu son sang, ce qui représentait son corps et son sang pour dire que la vie de Jésus-Christ, elle est en nous, elle nous habite. Et il ne faut pas l'oublier. Et l'évangile des béatitudes qu'a donné Jésus-Christ résonne de ce même mot, heureux. Et Pierre nous a dit, heureux, ce n'est pas un sentiment, hein, ouais, je suis joyeux, je suis heureux. Non. Jésus employait ce mot dans un sens, et quand on le prend dans le sens grec du terme, c'est un mot, André Chouraqui, dans sa Bible, qui traduit en araméen, il dit, c'est l'action de marcher, c'est se mettre en route. C'est quelqu'un qui, je vais vous lire exactement, le pas de l'homme sur la route sans obstacle conduit vers le Seigneur. Il s'agit donc moins du bonheur que de la démarche qui y conduit. C'est une action, être heureux. C'est pas un sentiment. C'est se mettre en route vers cette joie. Le psaume 112 nous disait, heureux qui craint le Seigneur. La crainte de Dieu au sens biblique, et on le sait, on le répète, mais il faut avoir ça dans la tête. C'est à la fois la conscience que Dieu est saint, il est parfait. Dieu, il est, mais très loin de tout ce qu'on peut imaginer. Ses pensées sont très, 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 très loin de nos pensées. Il est le créateur des cieux et de la terre, de tout ce qu'on peut voir. Ça, c'est notre Dieu. La crainte de Dieu, c'est la reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour l'homme. Tout ce qu'il a fait pour moi, lui le Créateur, il se soucie de moi. Celui qui craint Dieu se soucie de faire plaisir à Dieu, de l'écouter, de passer du temps avec lui. Il est notre Créateur, lui seul sait ce qui est bon pour nous. C'est une attitude filiale de rester comme un fils. Respecte son père comme son père aimerait être respecté. C'est comme ça. Une confiance, une pleine confiance et une pleine obéissance. C'est ça la liberté d'un enfant. Marilena dit toujours, dans une classe qui est importante, c'est pour les enfants, pour qu'ils soient libres, c'est de leur donner, leur montrer les limites, le cadre dans lequel ils peuvent s'épanouir. Et on dit toujours, un peintre, comment il commence à faire un chef-d'œuvre? Ben, en faisant un cadre à sa toile. Il faut s'imposer il y a des limites. C'est ça la vraie liberté, la manière dont Dieu a prévu que nous nous épanouissions dans ce monde. Alors la double découverte d'Israël, c'est à la fois que le Dieu qui est le tout autre, eh ben il s'est fait tout proche de nous. Il est infiniment puissant, oui, mais cette toute puissance, c'est celle de l'amour qu'il a pour nous. Et nous avons donc rien à craindre puisqu'il veut et peut lui seul notre bonheur. Et vous connaissez ce verset du psaume 102, comme la tendresse du Père pour ses fils, ainsi est la tendresse du Seigneur pour celui qui le craint. Craindre le Seigneur, c'est bien avoir à son égard une attitude de fils à la fois respectueux et confiant, de fille respectueuse et confiante. C'est aussi s'appuyer sur lui. L'homme de bien s'appuie sur le Seigneur, son cœur est confiant. Voici donc la juste attitude envers Dieu, celle qui met l'homme sur la bonne voie. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. Voici maintenant la juste attitude envers les autres. L'homme de bien a pitié. Il partage. Homme de justice, de tendresse et de pitié. À pleine main, il donne aux pauvres. Dans la première lecture d'Ésaïe, on soulignait bien le lien dans notre relation entre nous et les autres, et puis notre relation à Dieu. Et là, c'est notre relation aussi à Dieu et notre relation avec les autres. La formule homme de justice, de tendresse et de pitié, ça fait penser à qui? Ça fait penser à Dieu, c'est comme ça qu'il se présente à Moïse. Le Seigneur Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Le psaume qu'on vient de lire, c'est un psaume qu'on appelle écrit en acrostiche. C'est-à-dire que chaque lettre commence avec une lettre de l'alphabet pour se la mémoriser. Mais c'est aussi une manière de dire, c'est un tout. Vous avez là le A et le Z qui est là. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous avez le tout. Vous êtes en communion avec votre Dieu. Mais comment ça se fait? C'est en passant du temps avec Dieu que nous lui serons semblables. Un père, un enfant ressemble à son fils en passant du temps avec son papa. En le regardant manger, boire, se comporter avec les autres. En lisant la parole, en voyant ce que Dieu a fait pour nous, en se remémorant, en regardant Jésus, comment il marchait parmi les hommes, comment il interagissait avec les gens. En passant du temps avec Dieu dans la prière. Là, on a eu notre réunion de prière, mais quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez pris une heure avec votre Dieu? C'est pas pour culpabiliser du tout, mais c'est pour encourager, c'est pour dire, on veut tous faire mieux. Et là, le Seigneur nous invite à faire mieux. Ceci va nous amener à l'évangile pour ce matin. Cet évangile fait suite aux béatitudes, Matthieu chapitre 5. Et ce qui suit les béatitudes, c'est ces versets. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, vous êtes le sel de la terre, si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Alors, tant mieux si la lampe est jolie, mais franchement, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est plus important, c'est qu'elle brille et qu'elle apporte de la lumière, c'est qu'elle éclaire. Et d'ailleurs, Si elle n'éclaire pas bien, si on n'y voit pas bien, on ne verra pas qu'elle est belle, cette lampe. Elle est jolie. Et quant au sel, ben, la vocation du sel, vous savez, c'est de disparaître. Le sel, quand il a donné sa saveur, il n'existe plus. Et c'est peut-être une leçon pour nous qui cherchons parfois à exister par de bonnes œuvres. L'idée, elle n'est pas là. L'idée, c'est de faire exister Dieu par nos bonnes œuvres. Mais si le sel manque, ben le plat sera moins bon. Je veux dire par là que le sel et la lumière n'existent pas pour eux-mêmes. D'ailleurs, dans le passage, vous remarquerez que Jésus dit: vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Ce qui compte, c'est quoi? C'est pas le sel et la lumière, non. C'est la terre et le monde. Le sel et la lumière ne comptent que par rapport à la terre et au monde. Et en disant à ses disciples: vous êtes le sel de la terre, Jésus les met en situation de missionnaire. De missionnaire, et nous sommes missionnaires. Là où vous êtes, à l'école, au travail, dans vos familles, vous êtes missionnaires. Il leur dit: vous qui recevez mes paroles, vous devenez par le fait même sel et lumière de ce monde. Votre présence lui est indispensable. Ce qui revient à dire que l'Église n'existe que pour le monde. Voilà qui nous remet peut-être à notre place, où on veut exister, Église, que pour nous-mêmes. Non, nous sommes là pour le monde. Et déjà, la Bible avait répété au peuple d'Israël qu'il était le peuple élu, mais il n'était pas élu pour lui-même, il était élu au service du monde. Et cette leçon, elle reste valable pour nous. Alors, je reviens au sel et à la lumière. On peut se demander quel point commun il y a entre le sel et la lumière auquel Jésus compare ses disciples. Eh bien, la réponse, ce sont tous les deux des révélateurs. Le sel met en valeur la saveur des aliments. Et la lumière nous permet de connaître la beauté des choses. Parfois aussi, c'est vrai, des choses plus terribles. Elle met en lumière le péché. Mais elle luit dans les ténèbres. Le péché, c'est les ténèbres. Elle vient apporter, une fois que la lumière est dessus, eh bien, elle la transforme. Et on laisse la lumière pénétrer jusque-là, dans nos vies. Si le monde accepte cette lumière. Et c'est ce qui fait que cette lumière nous permet de faire connaître la beauté de nos frères humains qui nous entourent. Nous sommes là pour révéler aux gens qui ils sont. Ils sont beaux. Ils sont créés à l'image de Dieu. Et cela nous en dit long sur la mission que Jésus confie à ses disciples et puis qu'il nous confie à nous. Personne n'a besoin de nous pour exister, mais apparemment nous avons un rôle spécifique à jouer en ce monde. Je vais finir. Il y a une caricature qu'on a vue, la caricature de Charlie Hebdo, et je ne vais pas la montrer parce que c'est une caricature qui offense nos amis musulmans. Mais il y a quelque chose, moi, quand j'ai vu cette caricature, j'ai pas vu le prophète Mahomet, j'ai vu cet homme qui pleurait. Et c'est bizarre parce que ça n'a pas été commenté, ça a été commenté partout dans les médias. Oui, cet homme qui pleure, bon, la caricature de Mahomet qui pleure, en mettant je suis Charlie en dessous, hein, vous l'avez tous vu dans les médias, mais ce qui était marqué dessus. Et l'homme qui a dessiné cette caricature dit: j'ai dessiné la caricature, il témoignait, il dit: j'ai dessiné cette caricature en me disant, voilà, j'ai accouché de ça, c'était douloureux, c'était très douloureux. Il dit: j'ai dessiné la caricature. Il dit: pour moi, c'est un petit bonhomme qui pleure et qui est triste. Et j'ai marqué: je suis Charlie en dessous. Je l'ai regardé pendant longtemps. Et puis j'ai écrit: tout est pardonné. Au-dessus, il dit: et j'ai pleuré. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme. La plupart de ceux qui travaillent à Charlie Hebdo sont athées. Ce n'est pas un journal que je recommande de lire, bien sûr. C'est un journal qui se moque de tout. Mais Quand on a vu ça avec Marilena, on avait les larmes aux yeux, de dire tout est pardonné, mais d'où ça vient? Personne n'a réussi à commenter ça, ce tout est pardonné, enfin j'ai rien, j'ai entendu aucun commentaire là-dessus. Nous, on sait ce que ça veut dire, tout est pardonné. Il y a quelque chose qui a été mis dans le cœur de cet homme. Peut-être qu'il n'a pas bien compris ce qu'il a écrit, mais tout est pardonné. C'est notre Dieu qui nous dit ça. Il regarde nos vies, il dit regarde ta vie, il dit tout est pardonné, tout est pardonné. C'est ce message-là qu'on a à donner au monde. Jésus a tout pardonné si seulement vous pouvez accepter son sacrifice. Voilà le rôle de l'Église. Tout est pardonné. La dernière remarque, cet évangile qui est là, le sel et la lumière du monde, ça suit immédiatement les béatitudes. Et il y a donc un lien entre les béatitudes et le sel et la lumière du monde. Et on peut probablement éclairer les deux passages l'un par l'autre. Peut-être le meilleur moyen, c'est d'être sel et lumière pour le monde. C'est tout simplement de développer les béatitudes. Chacun, vous avez une béatitude. Peut-être vous êtes doux, peut-être vous êtes humble, peut-être vous êtes miséricordieux, peut-être vous avez soif de justice. Le Seigneur a mis ça en vous, il vous a appelé à cela. C'est complètement à l'esprit, à l'opposé de l'esprit du monde. C'est accepter de vivre selon des valeurs d'humilité, des valeurs de douceur, des valeurs de pureté. Des valeurs de justice, sainteté. C'est être artisan de paix en toutes circonstances. Et plus important que tout, peut-être, c'est accepter d'être pauvre et démuni, en n'ayant en tête qu'un seul objectif. En voyant ce que les disciples font de bien, les hommes rendent gloire à notre Père qui est aux cieux, dit le Seigneur. La vraie lumière du monde, ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ. Et en disant à ses disciples qui sont la lumière, Jésus leur révèle ni plus ni moins que c'est Dieu lui-même qui brille à travers eux. Et de pouvoir dire avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est une lumière, Seigneur. Une lumière dans nos vies, une lumière sur notre sentier. Et nous avons choisi, Seigneur, le chemin étroit et difficile de ton évangile. Mais nous savons, Seigneur, que c'est le seul chemin qui nous donnera de la joie. Aide-nous à continuer notre marche ou à nous remettre en marche, Seigneur, ou à nous mettre en marche, à apporter de nouveau cette bonne nouvelle au monde, Seigneur, que tu es le Seigneur des Seigneurs et que tu es venu jusqu'à nous à travers Jésus-Christ. Que tu es mort pour nous, Seigneur, pour nous manifester ton amour, pour nous manifester que tu es pardonné. Merci, Seigneur, pour le pardon que tu nous donnes et que nous puissions répandre la grâce à travers ce monde, autour de nous, par le nom de Jésus-Christ. Amen.